Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre cette semaine avec pour sujet les violences psychologiques, physiques, faites aux femmes, faites aux hommes. Pour en parler, je reçois une spécialiste du couple, conseillère conjugale et sexologue. Bonjour Mariotte Binet.
Bonjour Nathalie.
Nous évoquions donc ces souffrances aussi, ces douleurs, ces violences faites aux femmes, faites aux hommes. Quelles sont les conséquences très concrètes psychologiques autour de cette violence physique qui peut s'exercer au sein d'un couple, homme-femme?
Alors, quand on est face à la violence sexuelle, puisqu'on parle beaucoup là, dans cette émission du viol conjugal, ou en tout cas de la violence sexuelle, la violence, elle est non seulement physique, et elle est aussi psychologique. Donc, c'est-à-dire qu'elle atteint la personne complètement, globalement. Et la violence psychologique, elle va s'exercer par des menaces ou du chantage. Si tu refuses une relation sexuelle, voilà ce qui t'arrivera. Il peut y avoir de la dévalorisation, mais avec un mépris très fort qui est... De toute façon, toutes les femmes, elles le font, mais toi, t'es nulle, toi, tu sais pas le faire. Ou alors, une femme qui va dire à son conjoint, normalement, les hommes, ils sont tout le temps en érection, toi, tu l'es jamais, t'es vraiment nulle, t'as aucune virilité, tu me désires pas, je vais aller voir ailleurs, etc. Il y a des menaces très très facile, et ça je les entends même dans mon cabinet, où le conjoint dit à sa femme, parce que c'est souvent plus les hommes, si tu refuses, je vais voir ailleurs. C'est extrêmement violent. Surtout quand on est dans un couple chrétien où on s'est promis fidélité.
Alors vous recevez aussi ce profil aussi de
bien
couple
sûr.
Chrétien en difficulté. Et
oui.
Ça se vit aussi, ces couples chrétiens ne sont pas épargnés par
pas
ce sujet.
Donc, le viol conjugal le concerne viol des conjugal. Couples chrétiens. J'en ai reçu de différents âges qui ont vécu malheureusement ces violences-là.
Vous permettez, mais c'est le sujet lui-même est tabou. Il est encore plus tabou dans l'Église catholique et au sein des couples engagés chrétiens.
J'ai reçu un couple qui était marié depuis une quarantaine d'années et elle m'a dit ça fait 20 ans que je suis obligée, mais maman m'a toujours dit que c'était mon devoir. Et elle a pu me citer des moments où il y a réellement eu viol. Et pour elle, elle disait rien parce que elle pensait que c'était de toute façon son devoir conjugal.
Après 40 ans de mariage, qu'est-ce qui a poussé cette patiente donc à venir frapper à la porte de votre cabinet?
L'infidélité de son conjoint.
Et cette infidélité s'expliquait comment? Par le refus?
Il y avait un refus? Il y a eu une partie de ça. Il y avait une partie de ça, mais pas que. Mais en tout cas, ça a révélé, ça a permis de travailler sur l'histoire conjugale et de révéler ce viol conjugal.
Alors, qu'est-ce que ça dit au sein de ces couples engagés chrétiennement?
Alors, ça ne dit pas grand-chose en tant que tel, parce que chaque histoire est unique. Mais en tout cas, c'est une blessure extrêmement profonde, parce qu'il y a d'abord la blessure personnelle, mais il y a aussi une blessure par rapport à la relation. C'est-à-dire qu'il y a, mais qui est cet homme ou qui est cette femme avec qui je me suis mariée? A priori, on n'était pas parti pour vivre ce genre de choses. Et puis je dirais qu'avec tout ce que Jean-Paul II a relu de la sexualité dans la théologie du corps, les questions se posent d'autant plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le corps a une valeur intrinsèque, il est moi-même. Et donc, si mon conjoint ne respecte pas mon corps, il ne me respecte pas, c'est-à-dire qui je suis pour lui. Donc, qui je suis aujourd'hui dans notre mariage. Et là, pour certains, ça peut blesser l'engagement sacramentel, ça peut blesser l'union telle qu'elle a été souhaitée, en fait, à la base.
C'est un effondrement.
Alors ça peut être un effondrement avec bien sûr les sentiments de trahison, d'injustice, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est blessé à plusieurs niveaux, même spirituellement.
Et l'engagement aussi du sacrement que vous évoquez, oui. Ce sacrement de mariage,
tout à fait.
Où les époux se promettent cette fidélité.
Cette fidélité, mais cette fidélité qui est aussi dans le respect de la création, c'est-à-dire tels qu'ils ont été créés en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et la sexualité s'inscrit dans ce respect-là. C'est-à-dire moi en tant que femme et toi en tant qu'homme, nous ne fonctionnons pas de la même manière et nous avons à nous apprivoiser, nous avons à nous accorder Et ça, ça bouge tout le long de la vie conjugale.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui n'est pas compris au sein du couple sur justement ce grand sujet qui unit un homme et une femme dans ses désirs aussi de communion charnelle?
Il y a des blessures souvent personnelles, c'est-à-dire que le viol conjugal va être quelquefois, va avoir comme source quelquefois un manque affectif très fort où il y a un tel désir de fusion que le désir de fusion passe par la sexualité. Il n'y a que dans ce désir de fusion que je me sens aimée, donc je dois absolument avoir une relation sexuelle avec toi pour me sentir comblée. Donc ça devient un besoin impératif, mais qui est lié à une blessure archaïque. Il peut y avoir la possession de l'autre. Tu m'appartiens ou je t'appartiens. Donc j'ai besoin de t'appartenir, ça passe par la relation sexuelle. Il peut y avoir de la jalousie, je dois vérifier que c'est bien moi que tu aimes. Il peut y avoir...
Alors cette possession et cette jalousie ne sont pas des ingrédients de l'amour?
En tout cas, ce n'est pas chaste. Hein. C'est-à-dire que la chasteté, c'est justement de faire en sorte de ne pas capter l'autre. Capter l'autre est un péché. Faut être très clair d'un point de vue chrétien, et du coup c'est pour ça qu'il peut y avoir une blessure spirituelle pour le couple. Maintenant, au-delà de ça, il faut comprendre que ça n'est pas toujours quelque chose de pleinement conscient et volontaire. Ça peut être activé par l'inconscient, par des blessures personnelles qui ne sont pas conscientisées. Donc, quand je dis qu'il y a des auteurs qui souffrent, c'est-à-dire que quand ils prennent conscience de ça, ils sont en souffrance. Voilà. Et parce que la notion de violence n'était pas consciente, mais quand ils prennent conscience de cette violence-là...
C'est d'autant plus violent pour eux-mêmes.
Et c'est très compliqué, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça?
Vous avez eu des cas comme ça?
Oui, bien sûr.
Et vous accompagnez comment? Comment vous travaillez personnellement?
Ça dépend quelle est la source.
Un auteur.
Ça dépend quelle est la source, mais il y a des personnes qui peuvent venir de familles où l'interdit sexuel n'a pas été posé, où eux-mêmes ont pu vivre des violences sexuelles, avec des incestes, avec des attouchements sexuels, avec etc. Donc il y a des répétitions, soit transgénérationnelles, soit par modèle qui n'a pas été bien sûr suffisamment élaboré. Et du coup, il y a tout un travail personnel à faire là-dessus pour remettre la sexualité à sa juste place, mais déjà pour l'auteur lui-même. Et ensuite, pouvoir remettre la sexualité à sa juste place dans le couple. Et ça, c'est tout un travail. Après, il y a aussi la femme ou l'homme victime qui lui-même a pu vivre des blessures sexuelles dans son enfance et qui, du coup, a pu accepter ce viol conjugal ou ces agressions sexuelles parce qu'il y avait une forme de « j'ai déjà été victime, je me remets dans cette place de victime ». Et donc, je participe quelque part, et ça, c'est très compliqué à accepter, je participe quelque part au schéma.
Au fond, on rentre dans un schéma et un jeu entre victime et auteur au sein du couple.
Exactement.
Donc, une attitude peut-être au sein du couple où s'installe une forme de perversité, on se manipule l'un et l'autre.
Oui, alors, j'irai pas forcément jusqu'au mot perversité, parce que c'est pas forcément volontaire et conscientisé, mais en tout cas, ça donne une relation qui est toxique, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des victimes qui, à force de dire non, de dire non, de dire non, de dire non, vont provoquer...
Vous parlez bien toujours de cette relation
exactement,
sexuelle, hein, au sein
vont,
du couple.
Vont provoquer réveiller chez l'autre une violence parce que c'est « j'en ai assez d'être rejetée en permanence, je n'ai plus aucun accès à toi ». Et donc là, la menace psychologique peut arriver. À force que tu me dises non, mais oui, je vais aller voir ailleurs parce que j'en peux plus, enfin, c'est violent pour moi, ton non devient violent. Et ça, il y a des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui disent non dans ces cas-là, ne se rendent pas compte de la violence du non répété sur des mois et des années.
Une attitude de punition.
Il peut y avoir des vengeances, il peut y avoir...
Un règlement de compte, au fond.
Un règlement de compte. Il peut y avoir une protection personnelle, mais qui n'est pas non plus consciente, parce qu'on n'a pas encore repris conscience d'une agression sexuelle qu'on avait vécue plus tôt. Donc tout ça, ça se travaille, ça se parle. Et puis, il y a des femmes qui vont avoir un vaginisme de manière justement à ne pas vivre ce rapprochement sexuel et à s'affranchir de la pénétration. Voilà. Donc là, ça peut provoquer une sensation de viol conjugal parce que l'autre va être obligé de forcer.
On ne force rien, on reste en douceur. Le sujet est très très délicat et nous savons que des auditeurs sont peut-être eux-mêmes dans cette situation de grande douleur au sein du couple. Donc nous restons quand même bienveillantes, Marie-Aude Binet. Et je vous propose de vous retrouver sur ce même thème demain à la même heure. Et merci.